Théologie biblique, 12 janvier 1983, Rimont, Père Philippe.
Avant de continuer, je réponds à une question posée. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut dire que Dieu aurait pu créer un monde plus parfait. Voulez-vous parler d'un monde d'avant la chute ou du monde présent ? Je parle du monde même avant la chute. Dieu aurait pu créer un monde plus parfait en ce sens que Dieu l'a créé librement. Alors on peut dire qu'il l'aurait créé évidemment librement. Vous voyez, quand on dit plus parfait, comprenons bien, c'est-à-dire que Dieu, c'est toujours un peu... C'est-à-dire que le monde que Dieu a créé n'est pas adéquat à la sagesse de Dieu, n'est pas adéquat à l'amour de Dieu, n'est pas adéquat à la toute-puissance de Dieu. J'ai déjà dit plus d'une fois, c'est à propos de l'évangile de Saint Jean, comment le Christ soif du Christ montre comment l'œuvre de la croix, si parfaite qu'elle soit, n'est pas adéquate à l'amour du Christ pour le Père et pour nous. C'est pourtant une œuvre parfaite où il a manifesté son amour pour le Père et qu'il a voulu glorifier le Père et nous sauver. Et cependant, elle n'est pas adéquate. Aucune œuvre n'est adéquate à la source d'amour qui est dans le cœur du Christ. Aucune œuvre que le Père peut réaliser comme créateur n'est adéquate à son amour, à sa sagesse, à sa toute-puissance. Et c'est pour montrer l'inadéquation entre l'œuvre réalisée par la création et la sagesse de Dieu et l'amour de Dieu, qu'on dit que Dieu aurait pu créer un monde plus parfait. La formule n'est peut-être pas très, très bonne. Ce serait peut-être plus astucieux de dire tout simplement que le monde que Dieu a créé n'est pas adéquat à sa sagesse. Et par le fait même, il aurait pu créer un autre monde, différent de celui-là, différent de celui qu'il a créé, puisqu'il n'est pas adéquat à sa sagesse. Là, c'est toute la grande question là, du mystère de la sagesse de Dieu. S'il s'agit du monde avant la chute, comment peut-on parler de plus ou moins parfait en Dieu ? C'est pas en Dieu, c'est dans l'œuvre. Ou dans l'œuvre jaillit de lui, qui est absolument parfait. Dieu a dit « valde bonum », il n'a pas dit « c'est absolument parfait ». Il a dit « c'est bon, c'est même très bon ». Tout à fait différent. Le jugement de Dieu sur son œuvre ne dit pas du tout, c'est la chose la plus parfaite, je ne peux pas faire quelque chose de plus parfait. C'est impossible. De dire ça, ça prétendrait que le monde a été créé selon une création qui s'imposait à la sagesse de Dieu, comme étant la plus parfaite. Ça a été dit, ça, au point de vue philosophique. Hein. Leibniz dit ça. C'est un grand rêve. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde le plus parfait qu'il a réalisé, qu'il ne pouvait pas réaliser un monde plus parfait. Parce que s'il avait pu réaliser un monde plus parfait, eh bien, il aurait nécessairement créé. Non, il est libre. Et le monde n'est pas adéquat à la sagesse. Cela me paraît être un jugement très humain et arbitraire. Oui, c'est évident que c'est un jugement humain, ça je suis tout à fait d'accord. C'est le jugement du théologien, c'est le jugement du théologien qui essaie de montrer que le monde, si parfait qu'il soit, si parfait qu'il n'est pas adéquat à la sagesse de Dieu. Simplement ça, c'est pas autre chose que ça veut dire. Sûrement parce que je ne saisis pas votre pensée, ça c'était marrant. Pouvez-vous expliquer à nouveau, c'est ce que je fais. J'aimerais aussi que vous redisiez ce que vous avez développé au sujet de l'angoisse, qui est de se voir dans sa nudité, nudité première et nudité seconde. Je n'ai pas compris. Oui, alors ça. Alors la nudité troisième, c'est celle de Job. Et dans le livre de Job, je relisais le livre de Job l'autre jour à cause de la prédication pour Paris sur le mal. Et alors, on retrouve la nudité. Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, je rentre, je meurs. Hein. Et c'est la nudité, c'est la troisième nudité, c'est la nudité. Si vous voulez, elle rejoint la seconde. Mais elle est dite dans un contexte tout à fait différent. La première nudité, ils n'ont pas honte. Et le Saint-Père a beaucoup insisté là-dessus. Pour montrer que, de fait, l'homme et la femme créés en justice originelle se regardaient dans la lumière de Dieu. Quand vous regardez dans la lumière de Dieu, vous voyez l'harmonie et la beauté. À partir du péché, on se regarde. On se regarde soi-même en premier lieu. Et alors, en se regardant soi-même en premier lieu, il y a quelque chose qui ne va plus. On voit sa pauvreté, on voit sa nudité. Et surtout ici, parce que de fait la grâce, le péché ayant fait que l'homme et la femme, par leur faute d'orgueil, se regardent en premier lieu. L'orgueil, c'est se regarder en premier lieu. Et de regarder les autres uniquement relativement à nous-mêmes. On mesure les autres à ce que nous sommes. En disant, ils sont moins intelligents que moi. J'ai dit ça très humblement. En disant, mais ils sont moins intelligents que moi. Ils sont moins vertueux que moi. Toujours avec beaucoup d'humilité, toujours, c'est évident. Mais enfin, je me situe toujours le premier. Et je dis tout en référence avec moi. Et c'est le propre de l'orgueil, c'est de faire que l'intelligence passe avant. L'amour me porte vers l'autre, l'intelligence me fait me regarder en premier lieu. J'ai conscience de connaître et j'assimile dans la connaissance. Alors, donc, l'orgueil fait qu'on se regarde en premier lieu. Et comme c'est un orgueil qui a supprimé l'amour à l'égard de Dieu, on voit très bien comment l'orgueil fait qu'on se ferme sur soi-même et par le fait même, si Dieu est présent, on fuit. Et on se regarde en premier lieu et on voit sa nudité, on voit sa pauvreté. C'est pour ça qu'il y a les deux. Et c'est ce que je disais, que l'orgueil va de fait, si vous voulez, être source d'angoisse, parce que justement, on ne rejoint plus la réalité dans l'orgueil. On s'enferme dans son jugement propre. Et si on s'enferme dans son jugement propre et considère que son jugement propre, c'est la chose la plus étonnante qu'il soit, s'enfermant dans l'intentionnalité, notre jugement propre, on perd pied et on ne rejoint plus le réel. Et c'est comme ça que l'orgueil engendre l'angoisse. Il y a un lien entre l'orgueil et l'angoisse. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont angoissés sont orgueilleux. Faisons attention. Exactement comme dans l'évangile de Saint Jean, devant l'aveugle de naissance. Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Et le Seigneur dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Si nous sommes angoissés, ce n'est pas du tout parce que nous avons péché, nous nos parents. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Toutes les conséquences du péché. Hein. Or, l'angoisse est une des conséquences du péché. Ça, c'est net. C'est d'ordre psychique, hein, l'angoisse. C'est pas d'ordre moral. Il n'y a pas d'angoisse morale. C'est impossible. Il n'y a que des intentions morales. Et les intentions morales sont justement ce qui nous empêche d'être angoissés. Une intention morale, c'est une détermination très nette vers une fin. Et donc ça enlève l'angoisse. L'adoration qui nous détermine dans un sens très précis enlève l'angoisse. L'angoisse est donc psychologique. Et c'est la finalité qui disparaît dans l'angoisse. Et on sort de l'angoisse en redécouvrant la finalité. C'est-à-dire en redécouvrant la possibilité de respirer, c'est-à-dire d'aimer. Parce que quand on est angoissé, on ne respire plus, au sens profond. On est replié sur soi-même, son conditionnement, et c'est pour ça que je disais, les deux manières de sortir de l'angoisse, c'est respirer biologiquement et de respirer spirituellement. Respirer biologiquement, faire des exercices de respiration, c'est quelque chose de magnifique. Et des exercices de respiration spirituelle, c'est tout simplement d'adorer. Une adoration en esprit et en vérité. Alors, je continue, si vous voulez bien. Nous étions arrivés au terme de ce chapitre 3, je le relis simplement. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Yahvé Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Yahvé Dieu dit, voilà que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, et maintenant il ne faudrait pas qu'il étende la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive à jamais. Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden des chérubines et la flamme du glaive tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, il faut bien comprendre, c'est un magnifique symbolisme très extraordinaire pour nous faire comprendre que l'homme est chassé du paradis terrestre. Vous voyez la raison. La raison est évidemment un anthropomorphisme étonnant, comme si Dieu avait peur qu'à partir du péché, l'homme devienne l'égal de Dieu. Voilà que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'à partir de cette faute, à partir de cette faute d'orgueil, l'homme est capable de pouvoir s'orienter là où il le veut. C'est l'indépendance de l'homme qui est montrée. C'est l'homme qui prend lui-même cette espèce de maîtrise, si vous voulez, d'orientation de sa propre vie. Je crois que c'est ça qui est montré. Et que par le fait même, il est égal. Dieu a créé l'homme et la femme pour un bonheur divin, pour être semblable à Dieu, par l'amour. Et par le péché, l'homme veut être égal à Dieu dans la connaissance. Et c'est la connaissance du bien et du mal. Et c'est cette connaissance qui montre l'orgueil. L'orgueil, c'est justement ce fait que l'homme s'exalte dans sa connaissance et devient mesure de toute chose. Et en soi, de ce point de vue-là, vous voyez, il est l'égal de Dieu. Dieu est mesure de toute chose. L'homme veut être son petit Dieu. Il veut être mesure de toute chose. Et alors, on voit très bien, ce n'est pas du tout que Dieu a peur que l'homme soit l'égal, mais on voit le motif de la punition. Pour que l'homme comprenne qu'il est pécheur et qu'il a péché par orgueil, il faut la punition. La punition est une miséricorde. Si l'homme ne recevait pas la punition de Dieu, l'homme resterait dans son orgueil, en disant, vous voyez bien comme ça réussit, c'est merveilleux. Et la réussite viendrait justifier l'orgueil, ce qu'on fait automatiquement. On justifie notre orgueil par le point de vue de la réussite. Et le monde justifie son orgueil collectif par la réussite. C'est toujours, on se sert de la réussite comme, si vous voulez, d'un motif qui justifie. Alors, par miséricorde, c'est parce que Dieu aime l'homme et la femme, c'est parce que Dieu les aime comme son chef-d'œuvre, que Dieu veut la punition. La punition, relève de la sagesse de Dieu et de la miséricorde de Dieu pour qu'ils comprennent. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'ils étendent la main et qu'ils prennent aussi de l'arbre de vie, qu'ils en mangent et vivent à jamais. Vous voyez, l'orgueil qui s'étendrait. L'orgueil qui ferait que l'homme croit que tout réussit. Alors, pour que l'homme comprenne, chassé du paradis terrestre. Il y a ce symbolisme du glaive, de l'ange qui est là. Il y avait Dieu renvoya. Il chassa l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive. Si Dieu met ces chérubins et la flamme du glaive pour indiquer qu'on ne peut pas rentrer dans l'Éden, c'est, je crois, aussi pour nous faire comprendre que la nostalgie la plus profonde qui est en nous, c'est ce désir de retourner au paradis terrestre. Ce qu'il y a de plus profond en nous, le messianisme temporel le plus fort qui est en nous, c'est ce retour au paradis terrestre, retour à cet ordre premier de toute chose, à cette harmonie parfaite entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, à cette harmonie parfaite dans l'homme entre l'esprit et le sensible, entre l'esprit et les sensations. Et c'est cette nostalgie que nous avons en nous. Nous avons tous cette nostalgie. Nous devons en prendre conscience pour ne pas tomber dans le panneau. Parce que nous avons tous cette nostalgie fondamentale de retrouver sur la terre une espèce d'harmonie de paradis terrestre. Une harmonie que nous arriverions à faire entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Que toutes les exigences de la grâce soient toujours parallèles aux exigences de la nature. Et que chaque exigence de la grâce permette un épanouissement de la nature. Et que chaque épanouissement de la nature soit nécessairement un épanouissement de la grâce. Nous avons tous cette nostalgie du retour au paradis terrestre. Et cette nostalgie du paradis terrestre, Dieu montre que nous ne devons pas l'écouter. Dieu interdit de l'écouter. Et il veut que nous découvrions un autre paradis. Et l'autre paradis, nous le verrons progressivement, c'est la promesse d'un sauveur. Et ce sera Jésus, et ce sera le cœur blessé du Christ. Il y a le glaive, hein, faut pas l'oublier. Ce sera le cœur blessé du Christ qui est la porte étroite par où nous entrons dans ce nouveau paradis. Et le nouveau paradis pour nous, ce n'est plus l'Éden, mais c'est le cœur blessé de l'agneau. C'est le cœur blessé de l'agneau qui, pour nous, est justement le lieu qui nous est donné de nouveau.
Oui. Le pluriel, l'un de nous.
L'un de nous. Voilà l'homme qui est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. L'un de nous. Je crois qu'il faut faire attention. Vous savez bien que toujours, au fond, il y a les deux mots. Il y a le mot Dieu au pluriel et le mot Dieu au singulier. Alors, on peut dire que, de fait, pour nous, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous l'avons déjà vu. Quand Dieu dit ça, alors, n'allez pas me dire que c'est le pluriel de majesté. Non, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus profond pour nous. C'est Dieu qui se révèle à nous dans... j'allais dire, dans les trois. Mais évidemment, on ne peut pas à partir de là dire qu'il y a la révélation de la très sainte Trinité. Mais une fois que la révélation de la très sainte Trinité est faite, on peut le dire. Parce que nous pouvons comprendre que de fait, le démon est anti les trois. Ce que nous voyons dans l'Apocalypse, c'est le serpent, c'est le dragon, c'est l'adversaire. Ce que c'est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 13, hein, vous avez les trois. C'est le serpent, le dragon. Donc, les trois montrent la manière dont le démon essaiera d'exalter l'homme face aux trois personnes divines. Exalter l'homme en lui donnant la puissance, exalter l'homme en lui donnant l'intelligence et la ruse, exalter l'homme par le point de vue, tout simplement, d'un amour qui ne serait plus le véritable amour, mais qui serait comme la caricature de l'Esprit Saint. Je crois qu'on peut découvrir de cette manière les triples attaques du démon pour essayer comment l'homme va s'opposer à Dieu. Vous voyez, c'est de cette manière-là que j'interprète. Je sais très bien qu'on peut très bien dire, oh non, on peut dire le mot Dieu Elohim en pluriel, le mot Yahvé au singulier, donc on peut dire ça. Oui, mais pourquoi y a-t-il les deux? Vous voyez? Eh bien, je crois que nous pouvons dire aussi, c'est parce que pour nous, Dieu est un et il est trois. Alors nous allons entrer avec le chapitre 4 dans le second moment. L'homme chassé du paradis terrestre, hein? Non, ça ne va pas être très beau. L'homme chassé du paradis terrestre. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Yahvé. Il faut beaucoup aimer cette phrase, cette déclaration de notre première mère. Hein. C'est très beau ça. J'ai acquis un homme de par Yahvé. Ça nous montre bien que tout de suite, la fécondité, la procréation, c'est l'œuvre de l'homme et de Dieu. C'est l'œuvre de la femme et de Dieu. L'action de Dieu comme créateur pour permettre à la procréation de pouvoir se réaliser. J'ai acquis un homme de par Yahvé. Donc ce qui montre bien comme un acte libre de Dieu, répondant aux initiatives des parents, ici aux initiatives d'Ève et d'Adam. C'est après la faute, hein, et c'est important de voir qu'après la faute, la fécondité demeure. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, tandis que Caïn cultivait le sol. Alors là, tous ceux qui regardent la Bible d'une façon un peu sociologique, ça les intéresse énormément, parce qu'il y a toujours une rivalité entre le cultivateur et le berger. On sait très bien, n'est-ce pas? Il y a des rivalités, et des rivalités qui vont des fois très loin. Du point de vue du berger a une noblesse que le cultivateur n'a pas. Normalement, le berger l'emporte sur le cultivateur, celui qui cultive le sol, et puis le berger. Le berger, c'est évident que Dieu se dit berger, et Dieu ne se dit pas cultivateur. Il y a quand même aussi là un symbolisme très curieux qui ira jusqu'au bout. Je suis le bon pasteur. Dieu ne dit pas je suis le bon cultivateur. L'herméneutique de notre monde d'aujourd'hui, vous voyez, Abel fut berger, tandis que Caïn cultivait le sol. Or, au bout d'un certain temps, donc, laissez la famille grandir, hein, Caïn présenta des fruits du sol en oblation à Yahvé. C'est aussi très intéressant à noter. Après le péché, reste un geste d'adoration. Caïn présenta des fruits du sol en oblation à Yahvé. C'est donc un premier holocauste. C'est le premier holocauste qu'on voit. La première initiative des enfants d'Ève. Ils ont été bien éduqués par leur mère repentante. Et alors on voit bien, c'est évident qu'il y a des raccourcis bibliques qui sont étonnants. Alors, présenta des fruits du sol en oblation à Yahvé. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau, ainsi que de leur graisse. Ça, on sait très bien. Dieu aime la graisse, selon l'Écriture, n'est-ce pas ? Et les premiers-nés de son troupeau, ainsi que de leur graisse. Alors, on voit les deux gestes des deux frères. Il y a l'aîné, puis le cadet. Tous les deux offrent ce qu'ils ont de meilleur. Dans un geste, qui est un geste liturgique, c'est le premier geste liturgique qui nous est montré. Et c'est après le péché. Pour que nous comprenions que cette communauté reste une communauté religieuse, malgré la faute première. On va voir d'après la fin du récit que si Caïn et Abel font les mêmes gestes apparemment, bien que la matière du sacrifice soit différente, les intentions de Caïn et les intentions d'Abel ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça, c'est très important à voir tout de suite. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau, ainsi que de leur graisse. Yahvé porta ses regards vers Abel et vers son oblation. Donc, on voit tout de suite le regard de Yahvé sur Abel et son oblation. Mais vers Caïn et vers son oblation, il ne les porta pas. Alors on pourrait dire, hein, une injustice terrible. Attention, comprenons. Caïn entra en grande colère et eut le visage abattu. Yahvé dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi as-tu le visage abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Mais si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il point tapis à la porte? Vers toi va son désir, mais à toi de dominer sur lui. Première correction divine et avertissement. Et c'est très très curieux, ça. C'est très intéressant de bien noter ça. Quand il s'agit d'Ève, Dieu n'est pas venu avertir Ève. Il l'a laissée seule. Ève avait la possibilité en elle, puisqu'elle avait la grâce, puisqu'elle avait la justice originelle, de répondre. Ici, Caïn, il est démuni de la grâce de justice originelle. Il semble bien qu'un ait la grâce, puisqu'il offre le point de vue du sacrifice. Donc c'est un acte bon, mais aux hommes de bonne volonté. Mais on peut faire des gestes religieux uniquement de l'extérieur, sans que le cœur soit en conformité avec le geste extérieur. On peut réciter des psaumes, les chanter, et avoir des distractions sur son voisin. Dire comme il chante admirablement, comme il prie admirablement, et moi, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a l'air de regarder avec beaucoup plus d'attention mon voisin que moi. Vous voyez que c'est très curieux ce passage, il est très très beau, hein. Il est très très fort du reste, extraordinaire comme parallèlement à la première tentation, la seconde tentation, elle est tout à fait différente. On voit d'abord, hein, le partage entre Caïn et Abel. Si Caïn avait vraiment adoré, Caïn n'aurait regardé que Dieu. Caïn a été curieux. Un œil sur Dieu, un œil sur Abel. Il louche, spirituellement. Or, l'adoration réclame qu'on soit tout entier tourné vers Dieu. On ne peut pas adorer Dieu en regardant le prochain. Impossible. L'adoration, c'est un acte de politesse à l'égard de Dieu. Et quand on est en face de quelqu'un qui est plus grand que nous, on est tout entier à le regarder. Et on ne louche pas sur celui qui vient par derrière. On voit très bien cette attitude-là. C'est très important, c'est impliqué dedans. Voyez. C'est pour ça qu'on voit comment Dieu regarde Abel. C'est parce que Abel ne regarde que Dieu. Quand on ne regarde que Dieu, Dieu nous regarde. Quand on regarde le prochain à côté de nous, et puis qu'on fait les gestes extérieurs qui sont les mêmes que l'autre, Dieu ne nous regarde pas. Parce que nous louchons, ça ne va pas. On ne peut pas adorer à moitié. On ne peut adorer qu'en étant totalement donné. Et notre manière humaine d'agir, c'est toujours de comparer. La manière divine et le style de Dieu de nous faire vivre, c'est de nous faire dépasser les comparaisons. Et dans l'adoration, on dépasse les comparaisons. C'est là la grande éducation divine, hein, dans l'adoration. C'est de nous apprendre à ne regarder que Dieu, à n'être attentif qu'à Dieu. Alors à ce moment-là, Dieu n'est attentif qu'à nous. On voit très bien cela. Alors une fois qu'on comprend ça, on voit très bien le partage, hein. Le partage premier, comprenez-le bien, le partage premier, mais c'est dans la bonne volonté d'Abel. Tout entier, il regarde Dieu et est attentif qu'à Dieu. Parce que quand on adore Dieu, on est comme reclus en Dieu. Le partage premier, comprenez-le bien, le partage premier, mais c'est dans la bonne volonté d'Abel. Tout entier, il regarde Dieu et est attentif qu'à Dieu. Parce que quand on adore Dieu, on est comme reclus en Dieu, on est caché en Dieu. Et quand on est totalement caché en Dieu, on ne voit plus que Dieu, on ne regarde plus les autres. Tandis qu'on voit très bien qu'un, il louche, alors il est en colère. Caïn entra en grande colère. Et il eut le visage abattu. Alors, il y a la colère et la jalousie. Du reste, une colère de jalousie. Pour pouvoir être jaloux, ordinairement, il faut être curieux. Si Caïn n'avait pas regardé Abel, il n'aurait pas été jaloux. S'il n'avait pas louché, il n'aurait pas été jaloux. Toute jalousie provient d'une curiosité. On est curieux à l'égard de ceux qu'on ne devrait pas regarder. Quand notre frère adore, nous avons le respect de son geste d'adoration, puisqu'il est reclus en Dieu. Alors nous le laissons seul avec Dieu. On n'a jamais à regarder quelqu'un qui prie. C'est inconvenant. Vous voyez ? Dans le sens très très fort. Puisqu'il est seul avec Dieu. Il est pour Dieu. Donc c'est par rapport à Dieu, vous voyez, un manque de délicatesse. Un manque de savoir-vivre, tout simplement. Puisque quand on est seul avec Dieu, quand on adore Dieu, on doit être seul avec lui. Lui a regardé Abel, et comme Abel ne le regardait pas, et qu'Abel n'avait aucune attention à Caïn, Caïn est entré en grande colère. Et il eut le visage abattu. On a le visage abattu quand on est jaloux. La jalousie, elle nous donne toujours un visage d'enterrement. Et un cœur d'enterrement, n'est-ce pas ? Ça, c'est le point de vue, on a le visage abattu. On a la tristesse. Et puis on a la colère. Il ne faut pas supporter ça. Il y a une injustice. Lui, le cadet, lui, le plus jeune, il est plus aimé. Yahvé dit à Caïn, pourquoi donc ? Alors l'interrogation, vous voyez de nouveau, l'interrogation de Dieu. Pourquoi ? Dieu sait très bien ce qui se passe. Mais on veut nous faire comprendre que dès que nous péchons, Dieu est extérieur à nous. Le péché chasse Dieu de notre cœur. Et quand le péché chasse Dieu de notre cœur, alors Dieu est obligé d'interroger. Yahvé dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi as-tu le visage abattu ? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il point tapis à la porte ? Alors ça c'est très très beau pour voir ce que c'est que la tentation de jalousie. Vous voyez, la tentation d'orgueil, elle est de l'extérieur. La tentation de jalousie, elle est de l'intérieur. Le péché n'est-il point tapis à la porte ? Vers toi va son désir, mais à toi de dominer sur lui. C'est toujours dans notre imagination la porte.
à la porte de notre cœur. C'est toujours dans notre imagination que le péché de jalousie commence. Et nous nous laissons entraîner. Nous les sommes portés par une espèce de représentation d'image qui fait que ça devient insupportable, on ne peut plus supporter celui-là. Vers toi va son désir, à toi de dominer sur lui. Vous voyez, comme le Seigneur montre bien la possibilité de dominer sur lui. Pouvoir politique sur notre imagination, sur notre imaginaire, ne pas nous laisser prendre. Qu'un, dit Abel, donc, Caïn n'écoute pas Dieu. Il a été averti par Dieu. Mais Caïn n'écoute pas. Caïn dit à Abel, son frère, « Allons dehors !» Or, tandis qu'ils étaient dans la campagne, il faut s'écarter des regards indiscrets de la mère et du père. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la terre, mais il y a la mère et le père. Ça demeure. Caïn se dressa contre Abel, son frère, et le tua. Yahvé dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Et Dieu laisse la liberté. Hein? Dieu avertit, il donne un conseil. Ça, c'est le conseil que Dieu donne. Avant le choix périlleux, Dieu donne un conseil. Et puis, Dieu laisse libre. Et Dieu intervient après pour que le coupable se repente. Où est Abel ton frère? Il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi? Voilà la colère. Il ne veut pas reconnaître en face de Dieu ce qu'il a fait. Il y avait dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi du sol. Alors ça, c'est aussi très important. Le cri de l'enfant dans le désert. Ici, il est mort. Alors il y a la voix du sang de ton frère qui crie vers moi du sol. On ne peut pas faire qu'un acte qui existait n'existe pas. On ne peut pas faire qu'un homicide, un fratricide qui a été fait par jalousie, qui a été fait dans cette attitude de jalousie, on ne puisse pas l'effacer. Dieu peut l'effacer et pardonner, c'est bien évident. Mais il existe. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi du sol. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa vigueur. Errant et fugitif, tu seras sur la terre. Voyez, la punition à Caïn est plus forte que celle qui est donnée à Adam. Mais c'est encore une punition par rapport à la terre. C'est ça, je crois, qu'il faut essayer de saisir. Maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert la bouche, qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa vigueur. Caïn dit à Yahvé, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui de dessus la face du sol. Et de ta face, je dois me cacher. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et alors quiconque me rencontrera me tuera. Alors évidemment, là encore, vous avez un langage mythique qui n'est pas précisément logique. N'est-ce pas? Puisque vous voyez bien la quantité du monde qui est sur la terre. N'est-ce pas? Je serai errant et fugitif sur la terre, et alors quiconque me rencontrera me tuera. Yahvé lui dit, eh bien, quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Alors ça, c'est très extraordinaire. L'alliance avec Caïn demeure. Et Dieu ne veut pas que l'homme soit celui qui porte le jugement, le discernement. Eh bien, quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Et Yahvé mit un signe sur Caïn pour que ne le frappe pas quiconque le rencontrerait. Caïn se retira loin de la face de Yahvé. Il habita au pays de Nod, à l'aise d'Éternel. Il faut, je crois, réfléchir un peu sur ce que représente justement cette punition que Dieu inflige à Caïn. D'abord, comprendre que la jalousie conduit à l'homicide et au fratricide. Il y a comme une logique interne. Quand on est jaloux vis-à-vis de quelqu'un, on n'a qu'un seul désir, c'est qu'il disparaisse. Alors on peut le tuer psychologiquement, moralement, on peut le tuer réellement. Le tuer psychologiquement et moralement, vous savez bien, c'est très facile. C'est raconter un tas de mensonges sur lui. Et c'est toujours la marque de la jalousie quand on commence à mentir vis-à-vis de celui qu'on ne peut pas supporter. Alors on raconte un tas de mensonges, et en racontant un tas de mensonges, on le tue dans sa renommée. Et on s'exalte soi-même, et on garde par le fait même le primat. Parce que celui qui est jaloux veut passer toujours le premier. Il n'accepte pas que le Benjamin passe devant. Il n'accepte pas d'être dépassé. Alors là, c'est très net. On voit très bien que la jalousie conduit à l'homicide et au fratricide. On voit comment Dieu défend l'innocent. Abel, c'est l'innocent. C'est le premier innocent sacrifié. Et c'est pour ça que toute la tradition a considéré Abel comme le Christ. Et Caïn, ceux qui, de fait, rejetaient le Christ par jalousie. Les grands prêtres, le Sanhédrin, par jalousie. Et c'est la jalousie qui a fait qu'on rejette Jésus. Une jalousie fraternelle, religieuse, pontificale. Toujours ajouter ça, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce que ça augmente. Quand elle est fraternelle, religieuse, pontificale. Parce qu'on n'accepte pas que l'autre passe devant. Les grands prêtres n'ont pas accepté que Jésus puisse paraître comme chef religieux, comme celui qui passerait devant. Donc Abel, c'est l'innocent. Et c'est Dieu qui prend la défense de l'innocent. Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi du sol. Alors regardez le mystère de la croix. Il y a comme un appel mystérieux du pauvre vers Dieu, son sang versé. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. C'est le sol dont Dieu va se servir, donc la terre, dont Dieu va se servir pour infliger une peine nouvelle, pas seulement chasser du paradis terrestre, mais encore un sol infécond. Une espèce d'opposition qui existe entre le travail de l'homme et le point de vue de la nature. Et c'est le point de vue du sang qui est là comme signe. Et c'est important, parce que ça fait partie, si vous voulez, de ce que nous devons essayer de découvrir progressivement. Vous voyez, ici on parle de la voie du sang. Alors, nous retiendrons, je vous ai dit, il faut avoir des petites fiches, comme dit saint Augustin, de tous les grands leitmotifs de l'écriture. Alors, nous en avons déjà plusieurs leitmotifs de l'écriture. Nous avons celui de la femme, nous avons celui de l'homme, nous avons celui du pain, nous avons celui du sang. Je prends les leitmotifs positifs, hein, parce qu'on pourrait prendre le serpent, c'est sûr, d'un autre leitmotif.